Aujourd'hui dans Enjeux de santé, une question répandue mais qui revient de manière récurrente chez les étudiants d'aujourd'hui, celle de la santé mentale. De nombreux médias s'intéressent depuis quelques temps à la santé mentale de nos étudiants français qui semblent mis à mal. Certains rapports, notamment de la Fédération nationale des étudiants en soins infirmiers, qui livrait les résultats d'une enquête sur le mal-être des étudiants de cette filière, tentent d'attirer l'attention sur la condition parfois alarmante de certains étudiants. Ce mal-être, comme on pourrait l'appeler, s'étend à de nombreux étudiants ou lycéens. En cause, leur orientation scolaire, l'environnement social, les questionnements intérieurs, entre autres. Ces interrogations peuvent parfois mener à d'importantes conséquences sur leur santé mentale. Pour répondre à ces problématiques, un service est ouvert aux étudiants ou lycéens qui en ressentent la nécessité. Il s'agit du Bureau d'aide psychologique universitaire, plus connu sous l'appellation BAPU. Pour en comprendre son fonctionnement et son importance, Ariane Auger et Isabelle Rialet-Meneux, toutes deux consultantes au BAPU Rennais, psychologues cliniciennes et psychanalystes, nous fournissent des éléments de réponse en présentant le travail des différents acteurs du BAPU et leur action générale.
Ce sont des petits établissements qui se sont créés dans l'après-guerre, adossés aux mutuelles, pour répondre à une demande de la part des étudiants d'avoir à exposer enfin leurs difficultés et comment on pouvait prendre en compte leurs problèmes, leurs demandes. Les mutuelles se sont beaucoup intéressées à ça, tout en s'appuyant aussi sur le discours psychanalytique. Alors le BAPU de Rennes s'est créé dans cette mouvance-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un dispositif assez souple qui permet de rencontrer des étudiants, mais en dehors de la faculté. Vous voyez, nos locaux sont situés au cœur de la ville, donc à distance quand même des différentes facultés ou des différentes écoles, ce qui permet aux étudiants qui pourraient être rétifs à consulter un psychologue, un psychanalyste, et qui n'ont pas les moyens aussi parfois de le faire en ville, de venir dans un lieu qui est quand même un lieu qui a été pensé pour eux. Et beaucoup d'étudiants viennent avec leurs difficultés, leurs souffrances, leurs symptômes, ce qui ne va pas. Ils savent qu'ils vont rencontrer des cliniciens, des psychanalystes qui sont dévolus à les rencontrer en tant qu'étudiants. Hein. C'est important ce signifiant, je crois, étudiant pour... dans la démarche des étudiants qui viennent nous rencontrer.
Quand un étudiant se présente au BAPU, comment ça se passe pour lui en termes de prise en charge, des différents rendez-vous qu'il peut y avoir, comment ça se passe au début de la prise en charge ?
Pour les lycéens, souvent, en tout cas dans ceux que je rencontre actuellement, c'est plutôt les parents qui appellent. Mais ça peut arriver que ce soit un lycéen ou une lycéenne qui téléphone, sinon en général ce sont les étudiants qui appellent la secrétaire d'un point de vue pratique. Et puis nous sommes alors 8-9 consultants, psychologues, psychiatres, parce qu'il y a des psychologues psychanalystes, mais il y a également des psychiatres psychanalystes. Et donc la secrétaire accueille au téléphone la demande et ensuite propose à l'un des psychologues psychanalystes de rencontrer tel ou tel étudiant. Ça se fait comme ça. Les six premiers rendez-vous sont automatiquement, si on peut dire ça comme ça, pris en charge par la sécurité sociale. C'est la modalité. Et ensuite, au bout de 6 rendez-vous, l'étudiant est amené à rencontrer un des médecins, justement, psychanalyste, du BAPU, pour valider auprès de la sécurité sociale que ce jeune va continuer ses rendez-vous auprès du même ou de la même psychologue psychanalyste. Et ensuite, c'est parti pour 30 séances. Et si l'étudiant souhaite ou l'étudiante continuer, il doit revoir à nouveau le psychiatre psychanalyste, parce que c'est un médecin qui doit valider auprès de la sécurité sociale le fait que cet étudiant vient ou cette étudiante vient au BAPU.
Ça va à l'encontre de ce qu'on entend souvent quand on dit au BAPU c'est gratuit. C'est pas gratuit. En effet, les étudiants n'ont pas avancé le montant des consultations, mais ça n'est pas gratuit puisqu'il y a une prise en charge sécurité sociale.
Un accueil donc assuré aux étudiants ou lycéens qui en ressentent le besoin. Le BAPU a évidemment sa place dans le paysage universitaire, mais pour quelles raisons ces catégories de la population ressentent cette nécessité de s'adresser à des professionnels ? Des problématiques qui, selon Ariane Auger et Isabelle Rialet-Meneux, répondent particulièrement aux enjeux contemporains sociaux et économiques qui touchent les étudiants.
Ce que nous rencontrons au BAPU, c'est vraiment la clinique contemporaine. La clinique des jeunes gens au XXIe siècle, c'est-à-dire ceux avec quoi ils viennent nous faire part de leur angoisse. C'est quand même l'angoisse, c'est le motif essentiel de la majorité des consultations. Hein, les étudiants et lycéens, les jeunes gens viennent avant tout avec une angoisse, quelque chose en excès, en trop, qui les désoriente, qui les empêchent de travailler, de poursuivre parfois leur cursus, qui les mettent en difficulté dans le lien social, dans le rapport avec les camarades, avec la famille, dans le rapport aussi amoureux. Donc c'est l'anxiété qui est quand même en premier lieu un motif de consultation. Ça s'accompagne souvent d'un sentiment aussi de perte de repère, de désorientation, de ne plus pouvoir finalement s'appuyer sur les repères antérieurs, la famille, les idéaux de la famille, le lycée, la bande aussi de copains. Tout est remanié à cette époque. Il y a le remaniement de l'adolescence, mais il y a aussi ce remaniement au moment de l'entrée à l'université ou l'entrée dans les grandes écoles, ou enfin les écoles post-bac. Ce moment où voilà, le sujet n'est plus tout à fait identifié aux idéaux de sa famille. Il a à construire quelque chose qui lui... Enfin, l'étudiante a à construire quelque chose qui lui est propre. Et ce n'est pas toujours facile. Voilà. Donc c'est souvent l'anxiété et une perte de repères qui signent une certaine désorientation. Il s'agit... de faire un petit parcours au BAPU pour retrouver un peu la voie de son désir, la voie de son orientation professionnelle, également sexuelle. On rencontre aussi, c'est très contemporain, cette question aussi du genre. Est-ce que je suis une fille, un garçon ? Est-ce que je suis attirée par les filles, par les garçons ? Enfin, c'est des questions qui ne font pas toujours symptômes, mais qui sont de plus en plus fréquentes. La question des addictions aussi, surtout à Rennes, tous les excès qui sont assez énigmatiques pour les jeunes gens qui en font usage. Finalement, ça les met dans des situations parfois très, très compliquées, voire dramatiques.
Les étudiants que j'ai rencontrés jusqu'à présent, c'est soit à l'entrée de l'université, par exemple en L1, avec une remise en cause du choix qu'ils ont fait, pour certains, avec ce qu'indiquait Isabelle, la perte un peu des repères, un peu beaucoup des repères avec la famille, surtout quand des étudiants viennent en dehors, géographiquement sont éloignés des parents pour certains. Pour d'autres, c'est autre chose, ils sont éloignés géographiquement et justement toute cette question des addictions, cette question des objets pris dans cette société de pousse aux objets, de pousse à consommer. Il y a beaucoup de jeunes étudiants et étudiantes en première année qui, enfin en tout cas moi que j'ai reçu, qui sont pris par l'entrou de l'alcool, l'entrou de la drogue, l'entrou de la fumette, mais aussi ça pullule du côté sexuel, avec une vie sexuelle extrêmement débridée. Je trouve aussi qu'on a des étudiants qui sont au bout d'un parcours, par exemple en deuxième ou troisième année, et qui là veulent se réorienter ou ne savent plus si c'est vraiment ce métier-là, enfin vers ce métier-là qu'ils veulent aller. Et puis la troisième temporalité, c'est à la fin par exemple d'un master, c'est-à-dire au moment de rentrer dans la vie active. Là, l'angoisse. Je trouve que ces trois moments, pour reprendre ce que disait Isabelle, début des études, milieu des études ou au bout de deux ans et fin des études, il peut y avoir une majoration de l'angoisse pour des raisons donc, qu'on vient d'indiquer différentes. Mais notamment le Master 2, là j'ai rencontré beaucoup d'étudiants qui terminent là, et donc ils vont terminer aussi leur travail au BAPU, mais qui sont extrêmement angoissés par le fait de rentrer dans la vie professionnelle. Je trouve qu'on note ça aussi chez les étudiants, c'est un recul quand même manifeste, là où, en tout cas, je pourrais dire, peut-être pour Isabelle et moi-même, de ma vie étudiante, c'était, on avait hâte de travailler. Enfin, hâte de séparer des études, bon, séparer des parents et de travailler. Là, c'est plus angoissant pour des raisons intimes, mais aussi pour des raisons qui tiennent à l'économie dans notre civilisation.
Ça devient une norme qu'après les études, on aille faire un grand voyage. En général, très loin, en Amérique latine, notamment en Australie, et on repousse le moment d'entrer dans la vie active. Et il n'est pas rare non plus qu'après la fin d'un cursus, les étudiants, enfin certains étudiants, décident vraiment de se réorienter, mais de faire tout autre chose que ce dont les études les a préparés. Alors souvent, c'est quand même en rupture avec des idéaux familiaux. Et l'idée, bon, on va jusqu'au bout de nos études pour sans doute répondre à la demande familiale, avoir un métier, un diplôme, et puis finalement, ce qui va se dévoiler, c'est plutôt un autre projet, vraiment à l'encontre de parfois de tout un parcours qui a duré plusieurs années. Et ça, c'est très déstabilisant.
Si on vous indique que voilà, un des symptômes majeurs, c'est l'angoisse, c'est parce que, bien sûr, on l'entend, mais ils le disent, et qu'il y a des niveaux d'angoisse plus ou moins importants, mais eux-mêmes le disent. Ils sont angoissés de démarrer leurs études, ils sont angoissés parce qu'ils n'arrivent pas à travailler, alors qu'au lycée, ça fonctionnait pas trop mal pour certains, moins bien pour d'autres, mais ils le disent. Angoissés parce que certains décrochent, ce qu'on soulignait tout à l'heure, Isabelle en parlait, c'est-à-dire que c'était pas la bonne orientation, c'était pas la bonne voie. L'angoisse peut venir aussi, il y a quand même beaucoup d'étudiants qui peuvent rentrer en première année universitaire parce qu'ils ne savent pas quoi faire, donc c'est prendre le temps pour eux de se décider un peu, prendre le temps de ne pas se lancer dans une filière parce qu'ils ont besoin de plus de temps justement pour affirmer leur choix. Hein, ce qui, je lisais un article que Isabelle nous a repéré, un article dans Télérama sur les étudiants, les difficultés chez les étudiants. Avec Parcoursup là, qui se met en place, ça risque de freiner ce côté de pouvoir rentrer en première année et puis pas savoir ce qu'on veut faire. Là où pour des sujets, c'est nécessaire de s'attarder, comme disait Freud, s'attarder dans, il dit, le développement, les stades fâcheux du développement de l'adolescent et de l'enfant. Fâcheux au sens où, ce qu'a souligné Isabelle tout au début, ça les arrête, ça les encombre, ils sont retenus, inhibés, il y a des symptômes qui apparaissent. Hein. Mais ils en parlent de l'angoisse, ils en parlent très très bien.
Nous vivons dans un monde aussi où la rentabilité, l'efficacité sont aux commandes. Hein. Là, on entend les manifestants dans la rue qui contestent aussi cette injonction contemporaine d'avoir à être efficace, à produire, à savoir absolument ce qu'il en est de son projet, alors que les étudiants, pas tous, mais enfin là, beaucoup, ont besoin de plus de temps pour construire un projet de vie. Hein, et aussi à emprunter des voies qui sont des voies de traverse, alors qu'en effet, avec Parcoursup, ça va être très compliqué de pouvoir s'attarder un peu avant de trouver un peu son orientation. Alors, je voulais préciser la question quand même de l'offre qui est faite par le BAPU face à ces problématiques très contemporaines, à savoir que c'est une offre de parole. Et il est proposé aux étudiants qui viennent au BAPU de déplier ce qu'il en est vraiment de leurs symptômes, de leur angoisse, de leurs inhibitions, de leurs difficultés dans leur vie de jeune homme, de jeune femme et d'étudiant, de façon à desserrer un peu cette pression. Je crois que c'est un peu le premier effet qu'on peut attendre d'une rencontre avec un psychologue ou un psychanalyste au BAPU, c'est de desserrer l'étau de la pression extérieure, donc de la contrainte. Hein. et un projet soit efficace, réussis tes études, etc., etc. Et ça, il me semble que ça permet qu'un écart se produise quand même avec la demande de l'autre pour que l'étudiant puisse un peu se faire sujet de son propre désir. Hein. C'est difficile de savoir ce qu'il en est de son propre désir, mais ça se construit. Et le BAPUS est un lieu où on peut construire quand même sa voix, son désir, à l'encontre souvent de ce qui est attendu par l'autre, la famille, la société.
Enfin. Au niveau des étudiants, on parle un peu d'une désorientation et puis une angoisse aussi. Donc il peut y avoir un isolement de la part de l'étudiant. Qu'est-ce qui, selon vous, devrait interpeller ces étudiants-là et leur montrer un peu la voie pour se dire qu'ils ont peut-être besoin d'aide.
Là, on peut s'appuyer que sur notre expérience clinique, c'est-à-dire, je vais revenir à c'est l'angoisse, par exemple. Hein. Et du côté de l'isolement, c'est assez... Je trouve ça important que vous mettiez ça en avant, parce que c'est assez compliqué. Parce qu'il y a tout un isolement vraiment massif d'un certain nombre d'étudiants, avec aussi un décrochage, un débranchement des études, du lien social et un branchement pour certains très important du côté par exemple des réseaux sociaux, des jeux. Donc isolement d'un côté et puis branchement d'un autre sur via les réseaux sociaux, ils essayent de recréer pour certains en tout cas un lien social, mais qui quand même les isole. Alors qu'est-ce qui peut les amener? C'est le trop d'angoisse, c'est ce que je disais tout à l'heure, un autre qui est allé ou une autre au BAPU et qui dit mais vas-y... ce que je disais tout à l'heure, le bouche à oreille, mais il y a certains... Alors, il y a aussi, dans l'université, il y a des lieux aussi où ils peuvent un peu parler. Donc, on voit bien que parfois, le CIMS, d'autres lieux comme ça, les points écoute jeunes, ça peut être des passages pour venir vers le BAPU. Mais il y a certains étudiants, effectivement, qui ne viennent pas. Hein, auxquels on n'a pas accès et parfois après ça peut être soit un passage à l'acte qui va les amener à venir, ce qu'on soulignait tout à l'heure, le trop dans les addictions, mais aussi les tentatives de suicide, ça fait point d'alerte plus si je puis dire pour qu'ils puissent s'orienter vers le BAPU.
Quand il y a un passage à l'acte ou quand, par exemple, il y a une addiction, c'est quelque chose qui est vraiment visible. Quand c'est de l'angoisse, l'étudiant peut peut-être ressentir qu'il est en période de stress, un peu d'angoisse, mais il ne va pas forcément se dire qu'il y a moyen de demander de l'aide pour ce genre de choses.
Votre question me fait penser à ça, c'est-à-dire que, bon, déjà, il faut savoir, je me permets de préciser ça, c'est qu'on ne reçoit pas tous les étudiants. Hein. Moi j'ai reçu quelques étudiants là, qui ont effectivement fait des tentatives de suicide, mais par moment le BAPU, enfin, ou un par un des sujets que nous rencontrons, a aussi ses limites, c'est-à-dire que je pense à un étudiant, voilà, il a fallu absolument qu'il se fasse hospitaliser, ça a été une nécessité, et là le BAPU a ses limites. Bon, il a été hospitalisé, puis il est revenu me voir après, hein. Mais le BAPU n'accueille pas tous les étudiants. Mais ce que vous dites par rapport à la question de l'angoisse, moi ça me fait penser aussi aux symptômes en général, c'est-à-dire que oui, certains étudiants peuvent être stressés. Alors je pense qu'il y a une différence entre le stress et l'angoisse, souvent on dit stress pour parler d'angoisse, mais ils vont être très stressés pour reprendre leur signifiant, mais pas venir. Ils viennent au moment où ça les encombre de trop, où au fond, dans leur vie, une série d'empêchements devient manifeste et où à un moment donné, ça les arrête, hein, ça les inhibe, il faut que ça fasse symptôme, comme on dit nous. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que le sujet se sente concerné en se disant « là, je ne peux plus faire tout seul ». Mais tant que ça ne fait pas symptôme, effectivement, ils ne vont pas venir.
De nombreuses problématiques qui poussent les étudiants à se rendre au BAPU. Mais aux étudiants qui n'auraient pas encore pris la décision de s'adresser à des professionnels, les psychologues et psychanalystes du BAPU ont un message à faire passer.
Il ne s'agit pas de rester isolé. Hein, que le BAPU, c'est un lieu où ils peuvent rencontrer vraiment encore... Hein, c'est-à-dire en présence des cliniciens, des psychanalystes qui vont les accompagner dans la construction, la reconstruction, voilà, de leur parcours qui est souvent arrêté ou empêché ou inhibé, enfin, ou impossible. Donc ne pas rester isolé. Il y a une différence entre la solitude et l'isolement. On peut se sentir seul, on est tous très seuls, voilà, dans un certain moment dans la vie. Mais l'isolement, qui est souvent pointé d'ailleurs dans les médias quand il s'agit, hein, d'évoquer la vie étudiante et la précarité des étudiants, qui est réelle. On rencontre, hein, quand même des étudiants qui vivent dans une extrême précarité, un dénuement. Vraiment à la fois du lien social mais aussi sur le plan matériel. Voilà, donc la solitude, oui, tout le monde a affaire à ça. L'isolement, là, c'est problématique. Donc là, il ne faut pas rester isolé, il faut venir. Et venir au BAPUS et rencontrer, voilà, des cliniciens. C'est là la différence du branchement aussi sur les réseaux sociaux, sur le monde virtuel. Hein, ici, c'est in real life.
C'est vrai que faire la démarche d'aller voir quelqu'un parce que ça ne va pas, ce n'est pas une démarche évidente. Hein. Certains nombres d'étudiants disent, mais bon, voir un psy, ça reste ça dans les esprits, je ne suis pas fou, je ne suis pas folle. Hein. Donc, moi, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est de s'autoriser à pousser la porte du BAPU, hein, et de pouvoir, alors si je rebondis sur ce que vient de dire Isabelle, pouvoir adresser leur isolement à quelqu'un et de ne pas rester seul face à face à leur isolement, et de l'adresser à quelqu'un et de tenter de le dire en mots, de le traduire en mots, ça change quand même beaucoup la donne. Il y a ce côté que je soulignais, voilà, aller voir un psy, je suis pas fou, je suis pas folle, mais admettre ça aussi. Et puis aussi, enfin moi je pense à deux personnes que j'ai rencontrées il n'y a pas très longtemps qui me disaient, mais oui, ça c'est pas normal si je fais ça, c'est encore bien moins normal. Bon, de notre côté, je crois qu'on est nombreux à dégonfler un peu ce côté. Ce qui est normal, pas normal, vous savez, en tant que psychologue, psychanalyste, quand on entend ce que nous disent les sujets, la frontière entre le normal et le pas normal, elle est très ténue et on est tous un peu anormal, hein, un peu zinzin au fond. L'idéal, c'est de trouver, enfin l'idéal, c'est pas l'idéal justement, il ne faut pas que ce soit ni idéal, l'essentiel, c'est de trouver sa voie. Et de construire sa vie et de la mener à sa main, et pas selon des normes.
Éviter l'isolement, traduire en mots son mal-être, admettre que l'on a besoin d'aide et reconnaître que chacun a un comportement et des pensées qui lui sont propres, voilà des notions à retenir pour tout étudiant ou lycéen. La demande de consultation peut être faite auprès du BAPU, la demande étant importante, une liste d'attente est en place. Cependant, une place est réservée aux urgences. Vous pouvez les contacter au 02 99 30 81 24.